Bonjour, nous entrons dans notre 13e étape du parcours Nouvelle Alliance. C'est la Nouvelle Alliance réalisée par la mort et la résurrection du Christ Jésus. Je vous invite d'abord à écouter un extrait du livre des Actes des Apôtres, où Pierre, le jour de la Pentecôte, annonce le cœur de la foi chrétienne. On est dans le livre des Actes au chapitre 2. Hommes d'Israël, écoutez les paroles que voici. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes, comme vous l'avez vu vous-même. Cet homme livré selon le plan bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Christ et Seigneur. Ce Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. » Voilà, chers amis, dans ce discours, Pierre énonce le cœur de la foi chrétienne, ce qu'on appelle le mystère pascal, le mystère de Pâques, la mort et la résurrection du Christ Jésus. C'est le centre de la bonne nouvelle annoncée par tous les apôtres et l'Église à leur suite au monde entier. Dieu nous a sauvés par la mort et la résurrection du Christ Jésus. Le pape François disait « C'est le feu de l'Esprit qui se donne sous forme de langue et nous fait croire en Jésus » qui par sa mort et sa résurrection nous révèle et nous communique l'infinie miséricorde du Père. Cela signifie que le Christ Jésus t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés, chaque jour pour t'éclairer, pour te fortifier. C'est ce qu'on appelle le kérigme, c'est-à-dire la profession de foi fondamentale des premiers chrétiens dans le mystère de Pâques, avec les éléments essentiels. Jésus-Christ est le Messie, c'est-à-dire le Sauveur, le Fils de Dieu. Il est mort et il est ressuscité pour notre salut. Et celui qui en rend témoignage personnellement invite celui qui l'écoute à la conversion. Alors pour accueillir ce kérigme, cette profession de foi en Jésus Sauveur qui transforme nos vies, nous allons essayer de comprendre la mort de Jésus et sa résurrection. Et d'abord, pourquoi Jésus est-il mort? Quelles sont les circonstances de sa mort? Je vais me référer au fur et à mesure au catéchisme de l'Église catholique dont vous avez les références sur les papiers. Au début de son ministère, Jésus est confronté à l'opposition des Juifs et des prêtres qui veulent le perdre. Les actes de Jésus leur semblent s'opposer à la loi de Dieu. Il guérit le jour du sabbat, ce qui est contraire à la loi. Il est proche des pécheurs. Il interprète la loi donnée par Dieu à Moïse de façon très originale, et puis on l'accuse de blasphème parce qu'il pardonne les péchés, ce qui est le privilège de Dieu, et il parle de Dieu comme étant son Père. En plus, il annonce la destruction du temple, le lieu saint où Dieu habite. En réalité, Jésus accomplit la loi de Dieu, en voulant qu'elle soit gravée pas simplement sur les tables de pierre, mais dans des cœurs nouveaux. Et Jésus n'est pas hostile au temple. Comme tous les Juifs, il est monté au temple chaque année. Il a purifié le temple, d'ailleurs, des trafics qui avaient lieu. Mais il annonçait être lui-même, par sa future résurrection, le nouveau temple où Dieu serait présent. Et puis, comme fils de Dieu, il est envoyé par Dieu le Père pour offrir le pardon des péchés. C'est la raison pour laquelle Jésus s'est fait proche des grands pécheurs. Mais parce que Dieu seul peut pardonner les péchés, Jésus a scandalisé les responsables juifs, qu'on appelle les prêtres ou les pharisiens. Bon. Alors, qui a condamné Jésus et l'a mis à mort. Alors d'abord, les autorités juives l'ont condamné. Elles étaient divisées au sujet de Jésus, mais la partie des religieux, des pharisiens, adeptes d'une interprétation stricte de la loi, a menacé d'excommunier, donc de retirer de la communion et de la présence dans le temple, tous ceux qui suivraient Jésus. Et puis le tribunal du Sanhédrin, au terme d'un procès rapide avec de faux témoins, a déclaré Jésus coupable de mort. Les grands prêtres ont exercé des pressions politiques sur Pilate, le préfet romain, et une foule de juifs a demandé la mort de Jésus comme une foule manipulée. Mais ceci dit, on ne peut pas dire que les juifs soient collectivement responsables de la mort de Jésus. Deuxième auteur de la mort de Jésus, eh bien, son disciple Judas, qui l'a vendu, en le trahissant ainsi et le vendant pour 30 pièces d'argent au grand prêtre. Et puis, il y a les autorités politiques qui ont exécuté cette condamnation par les autorités juives. Pilate, par exemple, accepte la demande des autorités juives de mettre à mort Jésus, alors qu'il ne voit aucun motif de condamnation de Jésus. Et puis, il y a ultimement les pécheurs de tous les temps. En fait, nos péchés atteignent le Christ lui-même, et donc l'Église affirme que les pécheurs furent eux-mêmes les auteurs de toutes les peines qu'a enduré notre divin Rédempteur Jésus. Saint François d'Assise disait « Les démons, ce ne sont pas eux qui l'ont crucifié, c'est toi qui, avec eux, l'as crucifié et le crucifie encore en te délectant dans les vices et les péchés. » Mais il faut comprendre que la mort de Jésus n'est pas simplement le fruit du hasard ou de circonstances malheureuses ou injustes. Évidemment, ceux qui l'ont condamné ont agi librement, mais, comme on l'a entendu tout à l'heure, Jésus a été livré selon le projet bien arrêté et la prescience de Dieu. Et donc il y a un projet divin de salut. Dieu a permis cette condamnation injuste de son Fils, le seul juste, en vue d'accomplir son projet de salut. Ce projet de salut, par la mise à mort d'un juste, innocent, Jésus, en fait avait été annoncé dans la Bible par le prophète Isaïe comme un mystère de rédemption universelle qui libérerait tous les hommes de l'esclavage du péché. Je vous lis ce texte un petit peu long, mais absolument magnifique, qu'on trouve donc dans le prophète Isaïe, dans l'Ancien Testament. Et vous verrez qu'il s'applique quasiment mot pour mot à Jésus, dont la passion aura lieu 700 ans après la rédaction de ce texte. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Voilà ce texte magnifique qui écrit 700 ans auparavant, décrit en fait la passion de Jésus. Et d'ailleurs, après sa résurrection, Jésus le confirmera à ses disciples, disant « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. » Au cours de sa vie, d'ailleurs, Jésus à plusieurs reprises avait annoncé à ses disciples qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué et que trois jours après il ressuscite. Il fallait que le Christ souffre beaucoup. Il fallait, cette expression traduit le projet de Dieu. Dans son amour pour les hommes, Dieu a voulu offrir son Fils pour le rachat de tous les pécheurs. Et donc, Dieu le Père a envoyé son Fils pour partager notre condition d'esclave, celle d'une humanité déchue et vouée à la mort à cause du péché. Et Jésus a assumé les conséquences du péché jusqu'à se rendre solidaire des pécheurs. D'ailleurs, il a fait l'expérience d'être abandonné comme un pécheur qui se sent loin de Dieu, puisque sur la croix, Jésus ira jusqu'à dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» En livrant ainsi son Fils unique pour nos péchés, Dieu le Père manifeste un amour bienveillant au-delà de tout mérite de notre part. Saint Jean dira « En ceci consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime offerte pour nos péchés. » La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Voilà l'offrande incroyable que Dieu le Père fait de son Fils. En acceptant qu'il meure sur la croix pour nous sauver. Et le Christ lui-même n'a pas simplement subi la volonté de son Père, il est descendu du ciel pour faire la volonté de son Père. En entrant dans le monde, le Christ dit « Voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation, l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et en fait, dès son incarnation, dès sa venue dans ce monde, dans le sein de Marie, Jésus, le Fils éternel du Père, veut faire la volonté de Dieu, de sauver tous les hommes. Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de ce qui m'a envoyé, de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Et le désir d'épouser ce projet rédempteur de son Père va animer toute la vie de Jésus. D'ailleurs, sur la croix, Jésus dira, tout est accompli. Toute sa vie a été tournée vers l'offrande qu'il ferait sur la croix. Tout est accompli. Sur la croix, Jésus est immolé comme un agneau. D'ailleurs, le jour de la Pâque juive, on fait ce rite d'immoler un agneau en rappel de la nuit de libération d'Égypte où l'on avait marqué les montants des portes du sang d'un agneau. Et quand Jésus est sur la croix, pendant ce temps-là, les Juifs immolaient des agneaux pour la fête de Pâques. Jésus est donc bien l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, selon les mots que Jean-Baptiste utilisera pour désigner Jésus. L'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il les enlève parce que c'est l'amour qui l'habite. L'amour est la clé de l'offrande que Jésus fait de lui-même sur la croix. Il s'est offert librement. C'est cet amour offert librement qui nous sauve. Jésus, ayant aimé les disciples qu'il avait reçus de son Père, les aima jusqu'à la fin, nous dit saint Jean, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et parce que Jésus est vraiment homme, son humanité, habitée par son amour divin, nous obtient le salut. Jésus a librement accepté sa passion et sa mort par amour pour son Père et par amour des hommes que Dieu vient sauver. D'ailleurs, Jésus dira, « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Jésus n'est pas, malgré lui, arrêté et condamné. Il a donné sa vie. Souveraine liberté du Fils de Dieu, qui va lui-même vers la mort. Et d'ailleurs, la veille de sa mort, Jésus a anticipé son offrande lors de la dernière scène, le dernier repas. Il prend librement, avec ses 12 apôtres, la nuit où il fut livré, c'est-à-dire la veille de sa passion. Jésus fait de cette dernière scène, ce dernier repas avec ses apôtres, le mémorial, le souvenir permanent de l'offrande qu'il fera le lendemain sur la croix au Père. Et Jésus le fait en prenant un rite juif. Il prend du pain et il dira, sur la bénédiction du pain, « Ceci est mon corps donné pour vous. » Et puis, sur la coupe remplie de vin, Jésus dira, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Et donc, la messe, l'Eucharistie, que Jésus institue à ce moment précis, sera le mémorial, le souvenir permanent du sacrifice que Jésus fera le lendemain, le vendredi saint. Et Jésus inclut les apôtres dans sa propre offrande et leur demandera de perpétuer cette offrande. Faites ceci en mémoire de moi. Et en fait, nous sommes sauvés parce que Jésus va remplacer, d'une certaine façon, notre désobéissance, notre péché, le péché originel est un péché de désobéissance, par sa propre obéissance. La veille de sa mort, dans ce qu'on appelle l'agonie de Jésus, dans un lieu qui s'appelle Gethsémani, Jésus dira, « Père, s'il est possible que cette coupe, que cette souffrance, que cette mort passe loin de moi, mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Donc Jésus exprime l'horreur que représente la mort pour sa nature humaine, mais ajoutant non pas ma volonté mais la tienne, alors dans sa volonté d'homme, il accepte que la volonté de Dieu soit faite. Dans un cœur d'homme, alors que nous avions désobéi, il a obéi, il a accepté sa mort en tant que rédemptrice. Cet acte d'obéissance totale à la volonté de Dieu est la source, la cause de notre salut. Saint Paul dira, comme par la désobéissance d'un seul, Adam, la multitude a été constituée pécheresse, ainsi par l'obéissance d'un seul, Jésus, la multitude sera constituée juste. La conséquence du péché d'Adam a conduit tous les hommes à devenir pécheurs. La conséquence de l'obéissance de Jésus conduit tous ceux qui accueillent Jésus à devenir justes, réconciliés avec Dieu. Voilà pourquoi l'Église vénère la croix du Christ. Sainte Rose de Lima disait, en dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel. Après sa mort, Jésus descend aux enfers. D'abord, il est inhumé, et les premières affirmations de la foi nous disent que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ça veut dire qu'il a connu la mort, il est réellement mort, il a connu la séparation du corps et de l'âme, son corps a été inhumé dans un tombeau, selon les coutumes juives, et comme il connaît la mort de tous les hommes, Jésus rejoint tous les hommes par son âme au séjour des morts. C'est le mystère de ce qu'on appelle la descente du Christ aux enfers, non pas en enfer, qui est le lieu de la privation éternelle de Dieu, mais aux enfers, non pas pour y délivrer les damnés, ni détruire l'enfer de la damnation, mais pour libérer tous les justes qui l'avaient précédé, qui sont morts avant lui. On appelle la descente aux enfers. Et puis, Jésus ressuscite d'entre les morts. C'est un refrain qu'on a partout, en particulier dans les Actes des Apôtres. Nous vous annonçons cette bonne nouvelle, la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accomplie en notre faveur, à nous, leurs enfants. Il a ressuscité Jésus. La résurrection de Jésus est la vérité culminante de notre foi dans le Christ, qui est crue et vécue comme la vérité centrale par la première communauté chrétienne. Le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Il n'y a plus rien qui tient. Et donc, nous croyons que le Christ est ressuscité. C'est ce qui nous a été transmis depuis les apôtres. Et qu'on voit d'ailleurs dans tous les documents du Nouveau Testament comme la vérité essentielle du mystère de Pâques en même temps que la croix. La croix n'est pas le centre, même si la croix est, mais la croix est le centre avec la résurrection. Le mystère de la résurrection de Jésus est un événement réel, pas simplement symbolique ou une expérience intérieure, mais un événement réel dans l'histoire de l'humanité, avec des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. D'ailleurs, saint Paul, dès l'an 56, écrivait aux chrétiens de Corinthe, « Je vous ai donc transmis ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été mis au tombeau, qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, qu'il est apparu à Pierre puis aux douze. » Jésus est apparu d'abord à des femmes et puis aux apôtres, et il portait les traces de sa passion. Intéressant parce que la résurrection de Jésus n'efface pas la passion. Son corps authentique de ressuscité, marqué par les stigmates, les signes de la passion, blessure, possède en même temps les propriétés nouvelles d'un corps glorieux qui n'est plus contraint par le temps et l'espace et qui ne mourra plus. Il sera rempli de la puissance de l'Esprit Saint, ce corps glorieux du Christ qui fait de lui l'homme céleste. Et sa résurrection confirme la vérité de la divinité de Jésus. Il y a donc un double aspect dans le mystère de Pâques, le mystère pascal. Par sa mort, Jésus nous libère du péché. Par sa résurrection, il nous ouvre l'accès à une vie nouvelle. La résurrection consiste donc en la victoire sur la mort du péché et dans la nouvelle participation à la grâce. La résurrection du Christ, le Christ ressuscité lui-même, est principe et source de notre future résurrection. Saint Paul dira, « Le Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui se sont endormis, de même que tous meurent en Adam, tous revivront dans le Christ. » Alors, dans l'attente de cet accomplissement, qui se passera à la fin des temps, le Christ ressuscité vit aujourd'hui dans le cœur de ses fidèles. En lui, les chrétiens goûtent aux forces du monde à venir. Leur vie est entraînée par le Christ au sein de la vie divine, afin que, comme le dit saint Paul, les chrétiens ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui qui est mort et ressuscité. Et ce qu'on découvrira dans les semaines qui viennent, c'est que les sacrements, les sept sacrements, en commençant par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, sont les dons que Jésus a voulu pour nous communiquer à tous les hommes de tous les temps, le salut obtenu par le mystère pascal. Pour le dire autrement, vous n'étiez pas présents, ni moi non plus, il y a 2000 ans au pied de la croix ou à proximité du tombeau, vous n'avez pas été bénéficiaire directement de la mort et de la résurrection du Christ, mais par les sacrements, ce don de la grâce et du salut obtenues par la passion et la résurrection de Jésus nous sont communiquées. Si par exemple, on dit que pour le baptême, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. C'est ce que Jésus dit à la fin de l'évangile de saint Marc. Et puis, l'Eucharistie, instituée par le Christ, réalise la nouvelle alliance. Jésus le dit lors de la scène, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandu pour vous. Voilà. Nous découvrirons tout cela dans les semaines qui viennent. Et donc ce mystère pascal nous est communiqué, ce mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, ses fruits de salut et de vie, tout cela nous est communiqué aujourd'hui par les sacrements, par-delà le temps, les 2000 ans qui nous séparent, parce que Jésus lui-même l'a voulu et qu'il communique dans les sacrements les grâces de son mystère pascal. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous permettre de découvrir en ces jours qui précèdent la fête de Pâques. Et je vous invite à regarder Dieu le Père offrir son Fils pour nous sur la croix par amour, avec cette belle reproduction de la fresque de Masaccio à Florence, où on voit Dieu le Père qui tient la croix de son Fils pour offrir son Fils pour le salut du monde. La Trinité est donc engagée dans la passion de Jésus, puisque même l'Esprit Saint est donné comme la colombe entre le Père et le Fils. Le Fils remet son esprit au Père. Voilà pour la passion. Et puis la résurrection, je vous invite à regarder cette belle icône de ce qu'on appelle la descente aux enfers de Jésus ressuscité en blanc, qui va tirer Adam et Ève des enfers, qui représentent l'homme et la femme, chacun, chacune d'entre nous, pour nous faire passer des ténèbres, la partie basse de l'icône, à la lumière, la partie haute de l'icône. Voilà. Bonne et sainte fête de Pâques, chers amis, accueillez ce mystère de la nouvelle alliance réalisée par la mort et la résurrection du Christ, cette œuvre de salut et de vie que le Christ Jésus vient faire en nous par la volonté du Père.